Prologue. Ma vie est l'histoire d'un inconscient qui a accompli sa réalisation. Tout ce qui gît dans l'inconscient veut devenir événement et la personnalité, elle aussi, veut se déployer à partir de ses conditions inconscientes et se sentir vivre en tant que totalité. Pour décrire chez moi ce devenir tel qu'il a été, je ne puis me servir du langage scientifique. Je ne puis m'expérimenter comme problème scientifique. Ce que l'on est selon son intuition intérieure et ce que l'homme semble être sub specie aeternitatis, on ne peut l'exprimer qu'au moyen d'un mythe. Celui-ci est plus individuel et exprime la vie plus exactement que ne le fait la science. Cette dernière travaille avec des notions trop moyennes, trop générales, pour pouvoir donner une juste idée de la richesse multiple et subjective d'une vie individuelle. J'ai donc entrepris aujourd'hui, dans ma 83e année, de raconter le mythe de ma vie. Mais je ne puis faire que des constatations immédiates. Raconter des histoires. Sont-elles vraies? Là n'est pas le problème. La question est celle-ci. Est-ce mon aventure? Est-ce ma vérité? La difficulté lorsqu'on écrit une autobiographie et qu'on ne possède aucune mesure, aucune base objective, à partir de laquelle on pourrait porter un jugement. Il n'existe aucune possibilité pertinente de comparaison. Je sais qu'en bien des points, je ne suis pas semblable aux autres hommes, mais j'ignore ce que je suis vraiment. L'homme ne saurait se comparer à quoi que ce soit. Il n'est ni singe, ni bœuf, ni arbre. Je suis homme. Qu'est-ce à dire ? Comme chaque être, j'ai été moi aussi scindé de la divinité infinie, mais je ne puis me confronter avec aucun animal, ni avec aucune plante, ni aucune pierre. Seul un être mythique dépasse l'homme. Comment peut-on avoir sur soi-même une opinion définitive? Chaque vie est un déroulement psychique que l'individu ne domine pas, ou seulement de façon bien partielle. Par suite, il est bien difficile d'avoir un jugement définitif sur soi-même ou sur sa vie. En aurait-on qu'on connaîtrait tout sur ce sujet? Mais c'est là pure imagination. En somme, on ne sait jamais comment les choses se sont faites. L'histoire d'une vie commence quelque part, en un point quelconque, dont on a tout juste gardé le souvenir et même, à l'origine déjà, tout était compliqué au plus haut degré. Ce qu'elle deviendra, cette vie, on l'ignore. C'est pourquoi l'histoire est sans commencement et le but n'est qu'approximativement indiqué. La vie de l'homme est une tentative aléatoire. Elle n'est phénomène monstrueux que par ses chiffres et son exubérance. Au demeurant, elle est si fugitive, si imparfaite, que l'existence d'êtres et leur déploiement est prodige. J'en fus déjà profondément impressionné. Lorsque, jeune étudiant en médecine, il me semblait miraculeux de n'être pas détruit avant mon heure. La vie m'a toujours semblé être comme une plante qui puise sa vitalité dans son rhizome. La vie proprement dite de cette plante n'est point visible, car elle gît dans le rhizome. Ce qui devient visible au-dessus du sol ne se maintient qu'un seul été, puis se fane. Apparition éphémère. Quand on pense au devenir et au disparaître infini de la vie et des civilisations, on en retire une impression de vanité des vanités. Mais personnellement, je n'ai jamais perdu le sentiment de la pérennité de la vie sous l'éternel changement. Ce que nous voyons, c'est la floraison, et elle disparaît. Mais le rhizome persiste. Au fond, ne me semble digne d'être raconté que les événements de ma vie par lesquels le monde éternel a fait irruption dans le monde éphémère. C'est pourquoi je parle surtout des expériences intérieures. Parmi elles, je range mes rêves et mes imaginations, qui constituèrent de ce fait la matière originelle de mon travail scientifique. Ils ont été comme un basalte ardent et liquide à partir duquel s'est cristallisée la roche qu'il m'a fallu tailler. Auprès des événements intérieurs, les autres souvenirs pâlissent, voyages, relations humaines, milieux. Beaucoup de gens ont connu l'histoire de notre temps et ont écrit à son sujet. Il vaut mieux la lire dans leurs écrits ou se la faire raconter. Le souvenir des faits extérieurs de ma vie s'est, pour la plus grande part, estompé dans mon esprit ou a disparu. Mais les rencontres avec l'autre réalité, la collision avec l'inconscient, se sont imprégnées de façon indélébile dans ma mémoire. Il y avait toujours là abondance et richesse. Tout le reste passe à l'arrière-plan. C'est ainsi que les êtres, eux aussi, ne sont devenus pour moi d'impérissables souvenirs que dans la mesure où leur nom était depuis toujours inscrit dans le livre de mon destin. Faire connaissance avec eux équivalait à un ressouvenir. Même ce qui, dans ma jeunesse ou plus tard, vint à moi de l'extérieur et prit de l'importance, était placé sous le signe du vécu intérieur. Très tôt, j'en suis venu à penser que si aucune réponse ni aucune solution à des complications de la vie ne vient de l'intérieur, c'est que finalement l'épisode correspondant est de peu d'importance. Les circonstances extérieures ne peuvent remplacer les expériences intérieures. C'est pourquoi ma vie a été pauvre en événements extérieurs. Je n'en parlerai guère, car cela me paraîtrait vide et sans poids. Je ne puis me comprendre que par les aventures intérieures. Ce sont elles qui font la particularité de ma vie, et c'est d'elles que traite mon autobiographie. Chapitre 1. Enfance. 6 mois après ma naissance, 1875, mes parents quittèrent Caisseville, canton de Turgovie, au bord du lac de Constance, pour aller s'installer au presbytère du château de Laufen, qui domine les chutes du Rhin. Mes souvenirs remontent à peu près à ma 2e ou à ma 3e année. Je me rappelle le presbytère, le jardin, la buanderie, l'église, le château, les chutes du Rhin, le manoir de Wörth et la ferme du sacristain. Ce sont de simples îlots de souvenirs, en apparence sans aucun lien entre eux, qui flottent sur une mer indécise. Ici surgit un souvenir, peut-être le plus lointain de ma vie, et qui n'est, pour cette raison, qu'une assez vague impression. Je suis étendu dans une voiture d'enfant à l'ombre d'un arbre. C'est un beau jour d'été. Chaud. Le ciel est bleu. La lumière dorée du soleil joue à travers les verts feuillages. La capote de la voiture est levée. Je viens de me réveiller dans cette superbe beauté et je ressens un bien-être indescriptible. Je vois le soleil scintiller à travers les feuilles et les fleurs des arbres. Tout est splendide, coloré, magnifique. Autre souvenir. Je suis assis dans notre salle à manger, du côté ouest de la maison, dans une haute chaise d'enfant. Je bois à la cuillère du lait chaud où trempent des miettes de pain. Le lait a bon goût et son odeur est caractéristique. Pour la première fois, j'ai eu conscience de percevoir une odeur. À cet instant, je suis devenu, pour ainsi dire, conscient de sentir. Ce souvenir aussi remonte très loin dans le passé. Ou bien encore, c'est un beau soir d'été. Une tante dit « Maintenant, je vais te montrer quelque chose ». Elle se rendit avec moi devant la maison sur la route qui conduit à Dachsen. Très loin à l'horizon s'étendait la chaîne des Alpes dans le rouge flamboyant du soir. On la voyait ce soir-là très clairement. « Maintenant, regarde là-bas. Les montagnes sont toutes rouges. » Je vis les Alpes pour la première fois. J'appris alors que le lendemain, les enfants de Dachsen allaient faire une excursion scolaire à Zurich sur Lütliberg. Je voulais simplement y aller aussi. À mon grand chagrin, on m'apprit que de 6 petits enfants n'étaient pas autorisés à y participer, qu'il n'y avait rien à faire. À partir de ce moment, Zurich, Lütliberg furent pour moi l'inaccessible terre promise, auprès des étincelantes montagnes neigeuses. Un peu plus tard, ma mère partit avec moi en Turgovie rendre visite à des amis qui habitaient un château au bord du lac de Constance. On ne parvenait pas à m'éloigner de la rive. Le soleil scintillait sur l'eau, les vagues des bateaux venaient jusqu'à nous. Ils avaient formé de petites rides sur le fond de sable. Le lac s'étendait dans un lointain infini et cette immensité était un plaisir indescriptible, une merveille sans pareille. Alors se fixa solidement en moi l'idée que je devais vivre au bord d'un lac. Je pensais qu'on ne pouvait exister qu'au voisinage de l'eau. Encore un autre souvenir. Des étrangers, de l'agitation, une précipitation affairée. La servante arrive en courant. « Les pêcheurs ont trouvé un cadavre au-dessous de la chute du Rhin. Ils veulent le déposer dans la buanderie. »